pourrions lire quelques portions ensemble, chers amis, en commençant dans le second chapitre de la première épître aux Corinthiens, au verset 6e. Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 6. Or, nous parlons sagesse parmi les parfaits, sagesse toutefois non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui s'en vont, mais nous parlons la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'eussent pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, et qui est en lui? Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'Esprit. Communiquant les choses spirituelles par des moyens spirituels, or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses. Mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. Les facultés naturelles que le Créateur a données à l'homme lui accordent la possibilité d'apprendre, de considérer, voire même de sonder beaucoup de choses. Néanmoins, il y a un domaine qui lui demeure fermé et dans lequel l'intelligence naturelle, la plus grande, ne peut pénétrer, elle ne peut sonder, c'est le domaine des pensées de Dieu. Et chacun de nous peut constater cette réalité, à savoir que l'homme, sans relation vitale avec Dieu, n'appartenant pas à son Seigneur, ne peut pas comprendre les pensées de Dieu, elles lui sont étrangères, voire même folie, dit l'Écriture. C'est un domaine fermé, car il n'y a qu'une seule ressource, une seule puissance qui puisse accorder à l'homme de saisir ces choses, de les comprendre et d'en faire son profit, c'est le Saint-Esprit. Et nous avons pu constater dans ces quelques versets seulement le nombre de fois qu'il est fait mention de l'Esprit avec un I majuscule, c'est-à-dire la puissance divine, la personne, cette personne de la Trinité qui habite dans le croyant et qui a pour mission de nous ouvrir l'intelligence renouvelée qu'appelle l'apôtre Pierre notre pure intelligence, pour nous accorder de pénétrer, de sonder ces choses excellentes et merveilleuses qui n'ont rien de commun, rien de semblable aux choses les plus précieuses que l'homme peut sonder par son intelligence naturelle. Il faut donc avoir l'Esprit. Et comme le non-croyant n'a pas le Saint-Esprit habitant en lui, ce domaine donc demeure fermé. Et l'apôtre ici peut s'adresser à des croyants, et voire même à des croyants qu'il qualifie de parfaits. Nous parlons sagesse parmi les parfaits. une sagesse dont, comme on l'a vu, qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas de l'homme, une sagesse étrangère à l'intelligence humaine, et il s'adresse, selon la sagesse divine, et il s'adresse à des hommes qu'il qualifie de parfaits, terme que nous avons expliqué en note, ou homme fait. En effet, tout croyant, quant à sa position en Christ, est rendu parfait à perpétuité. Nous sommes parfaits et répréhensibles, nous sommes vus tels par Dieu en Christ, et cela toujours. C'est notre position inaltérable que la grâce divine nous a accordée dans la personne de Christ. Mais il y a un état de perfectionnement, un état de maturité spirituelle qui est produit par la croissance que Dieu veut pour nos âmes, pour notre bénédiction, car nous ne sommes pas destinés à demeurer dans un état d'enfance spirituelle, si fraîche que soit cette condition initiale de l'existence d'un croyant, comme du reste dans la vie d'un maître sur la terre. L'enfance a une fraîcheur, une valeur particulière, mais nous sommes appelés à en sortir. Et si l'enfant est placé devant nous, comme exemple à divers égards, néanmoins, bien des passages nous exhortent à avancer vers cet état d'homme fait de maturité spirituelle, capable de saisir la nourriture solide spirituellement. L'apôtre voulait dire à ses mêmes Corinthiens, vous êtes encore des enfants, vous êtes charnels, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide. C'est donc une répréhension, comme il le fait du reste. Il en a fait question, il en a fait mention dans l'Épître aux Hébreux. Les pensées de Dieu constituent un conseil éternel de toute éternité, en dehors de l'histoire de la première création, en dehors de l'existence de l'homme sur la terre. Un ensemble de décrets au sujet desquels le Père et le Fils était un de toute éternité. Avant même qu'existât la poussière du monde, nous dit le chapitre 8 des Proverbes, nous avons ces entretiens, ce propos de Dieu le Père et Dieu le Fils, au sein duquel il nous est fait mention de cette réalité combien digne de louange, à savoir que son plaisir était dans les fils des hommes. Avant qu'il existât un seul homme sur la terre. Mais pour saisir ces choses, pour saisir ce que Dieu fait, veut faire de cette créature qu'il va appeler à l'existence, et dont il connaîtra toute l'histoire de sa responsabilité sur la terre, il faut en effet l'esprit pour que nous puissions réaliser que cette bénédiction qui était dans la pensée éternelle de Dieu à l'égard de sa créature, de faire d'elle un enfant du Père, une brebis du troupeau, un membre du corps de Christ, un élément de son habitation, de son assemblée, et une pierre de cet édifice de la grâce, ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui pouvait le discerner. Ces choses n'ont même pas été révélées dans l'Ancien Testament, puisque nous lisons à l'ouverture de la première épître de Pierre que les apôtres, les prophètes se sont enquis avec soin, ne sachant pas de quel temps et sorte de temps les choses que l'Esprit indiquait avaient pour objet. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant mis au bénéfice de l'ensemble de la révélation des pensées. Il nous les a fait connaître par son esprit, par sa parole. Et c'est ce que l'apôtre se plaît à développer, et nous avons reçu l'esprit, non pas l'esprit de l'homme ou l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui ont été librement données par lui. Chacun peut souligner cette réalité de la puissance de l'esprit, qui est la seule clé par laquelle nous pouvons entrer dans le domaine de la révélation et de la jouissance des pensées de Dieu. Ces choses, comme nous l'avons vu, se discernent spirituellement, Elles sont la part de l'homme spirituel et elles sont communiquées aussi de manière spirituelle. Tout est de l'esprit, il n'y a rien de la chair, il n'y a rien de l'homme. C'est un domaine qui est étranger à l'homme dans la chair. Mais la grâce de Dieu nous a ouvert la porte, nous a ouvert ce domaine par son esprit pour que nous en prenions connaissance, pour que nous puissions en jouir avec louange. Et que pouvons-nous dire à l'égard d'un tel mystère caché dans les siècles sans Dieu, à l'égard de Christ d'une part et à l'égard de sa créature d'autre part? C'est bien ce que nous lisons au verset 9, ce que l'œil n'a pas vu, et que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Non seulement ce sont des choses qui étaient autrefois, qui ne peuvent pas monter à l'imagination humaine, mais ce sont des choses qui étaient jusqu'alors cachées. Des choses qui n'étaient pas révélées dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, la grâce nous est accordée d'en jouir et d'en saisir d'une manière limitée, bien sûr, non pas parce que la révélation en est limitée, mais parce que nous sommes nous-mêmes limités dans nos capacités de le saisir et par cela d'en jouir. Il y a trois domaines, en quelque sorte, en rapport avec le propos divin. Il y a ce que Dieu a préparé, et c'est bien ce sur quoi nous aimerions nous arrêter quelque peu, à savoir ce que Dieu a conçu dans ses pensées, ce qu'il a préparé, préordonné, d'une part à l'égard de son Fils bien-aimé. Car il faut naturellement qu'en toute chose, il tienne lui la première place. Secondement, il avait préordonné ce qui devait être la part de sa créature. Par le Seigneur lui-même, puisque nous le savons bien, aucune bénédiction ne peut parvenir à l'homme en dehors de Christ, en dehors du Seigneur. Il est la porte d'entrée à toutes les sphères de bénédiction dans lesquelles la grâce divine veut introduire sa créature. Ce qu'il a préparé pour son Fils, ce qu'il a préparé pour l'homme, et cela, une fois encore, appartient au conseil éternel de Dieu. Et c'est ce que nous pourrions considérer brièvement et dans la mesure de nos petites limites ce soir, ce que Dieu prépare pour son Fils, ce que Dieu prépare pour sa créature. Mais il y a aussi, d'autre part, ce que l'homme est appelé à préparer. Quant à ce que Dieu prépare pour son Fils, il est frappant de voir la distance qui sépare l'appréciation de Dieu à l'égard de Christ et l'appréciation qu'en a eu l'homme. Et il nous semble que les expressions telles que celles que Dieu lui-même traduit au jour où le Seigneur sort des eaux du Jourdain comme au jour de la transfiguration, à savoir qu'il est son Fils bien-aimé en qui il a trouvé son plaisir, et d'autre part, le cri poussé par la foule au jour de la crucifixion et qui d'une même voix s'exclame « Crucifie-le », nous avons entre ces deux déclarations tout l'abîme qui sépare entre les pensées, qui sépare les pensées de Dieu des pensées de l'homme. Et le critère déterminant, c'est en effet l'appréciation que nous avons devant Dieu à l'égard du Seigneur. C'est là le critère déterminant du niveau spirituel de nos appréciations et de nos pensées. Qu'est-ce que Dieu a en vue pour son Fils bien-aimé? Son Fils étant venu comme homme sur la terre pour révéler le cœur du Père, pour accomplir cette œuvre par laquelle son conseil éternel pourrait trouver son accomplissement, ce que l'homme n'a absolument pas saisi, car comme le dit l'apôtre dans le passage que nous avons lu, s'ils avaient perçu de telles choses, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ils l'ont crucifié. Et cet acte, unique dans les annales de l'éternité, a la totale responsabilité de l'homme, bien qu'il appartienne au conseil défini de Dieu. Par cet acte, les décrets divins établis de toute éternité peuvent trouver leur réalisation. Mais cette œuvre étant accomplie, le Seigneur étant ressuscité par la droite de Dieu, par la puissance de Dieu, le Seigneur ayant marché et s'étant manifesté aux siens pendant les 40 jours qui ont fait suite à sa résurrection, est donc élevé dans la gloire. Et qu'est-ce que Dieu fait pour son Fils? Il lui prépare l'honneur, il lui prépare une place à sa droite sur son trône. Et l'Épître aux Hébreux est là pour traduire ce sceau d'approbation, ce sceau de satisfaction divine à l'égard de Christ ayant accompli son œuvre, lorsque, entrant dans le ciel, étant porteur de son propre sang, garant d'une rédemption obtenue, Dieu veut dire à son Fils, le saluant, souverain sacrificateur pour l'éternité, assieds-toi à ma droite. Quel honneur de la part de Dieu accordé à son Fils bien-aimé qu'il reçoit dans le ciel, ayant accompli son œuvre, et qui entre dans le ciel comme homme glorifié, car il reste un homme éternellement, porteur même dans son corps d'homme glorifié, les marques de ses souffrances connues sur la terre. Mais Dieu reçoit son Fils, Dieu l'a haut élevé, c'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, alors que le Seigneur s'est abaissé lui-même, il s'est livré lui-même, remarquons que lorsqu'il s'agit de son abaissement, c'est lui-même, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte volontaire. Personne ne pouvait abaisser le Seigneur, personne ne pouvait livrer le Seigneur. Il s'est livré lui-même, il s'est abaissé lui-même. Mais il ne s'est pas glorifié lui-même, Dieu l'a glorifié. Mais la réponse de Dieu est d'une grande beauté, et vient s'aimer cette satisfaction et cette appréciation de la part du Père à l'égard de son Fils bien-aimé. Il l'a haut élevé. Lui s'est abaissé lui-même. Dieu l'a haut élevé. Dans le premier jardin, le premier homme s'est élevé et a été désobéissant jusqu'à la mort. Dans le second jardin de la souffrance, le second homme s'est abaissé et il a été obéissant jusqu'à la mort. Mais l'œuvre étant accomplie, Dieu l'a haut élevé. Il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, et c'est à ce nom-là que bientôt tous les êtres terrestres, célestes, terrestres et infernaux se voiront devant lui. C'est la prêtre prononcée devant Joseph lorsqu'il sort de la fosse et qui bientôt conduira tous ceux qui l'ont rejeté et méprisé à s'incliner devant lui. Tout genou se ploiera devant lui. Les genoux qui ont fléchi devant lui, devant la croix, avec moquerie et mépris, ces genoux se ploieront devant lui et reconnaîtront qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est la réponse de Dieu à l'outrage duquel le Seigneur a été abreuvé, duquel il a senti tout le poids, il n'a pas caché sa face à l'outrage ou au mépris de la part de sa créature. Mais Dieu a une réponse à cela. Et il l'a haut élevé, il l'a fait asseoir à sa droite. Il lui donne ce nom au-dessus de tout nom. Ézéchiel, en quelque sorte, à l'ouverture de son livre, nous traduit déjà de manière prophétique et anticipée quelque chose de cela. Lorsqu'il veut nous dire au chapitre 1er, au verset 26, au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait comme l'aspect d'une pierre de saphir, la ressemblance d'un trône, et sur la ressemblance du trône, une ressemblance comme l'aspect d'un homme, dessus, en haut, et je vis comme l'apparence de l'air luisant comme l'aspect du feu ose tant tout autrui. Comme une pierre de saphir, couleur céleste, au-dessus de l'étendue, que voit le prophète? Comme la ressemblance d'un troll, comme la ressemblance d'un homme qui occupe ce trône. Et où est-il? Où est celui qui s'est abaissé lui-même, qui est descendu dans les profondeurs de la mort, jusqu'au fondement des montagnes, qui a pu dire par l'esprit prophétique, toutes les vagues vont passer jour. Il est en haut, au-dessus de l'étendue. C'est là que le regard de notre foi le cherche maintenant, non plus couronné d'épines, mais couronné d'honneur, ayant reçu la couronne d'orphin, étant assise à la droite de Dieu. Dieu lui disant, assieds-toi à ma droite, mais lui-même pouvant prendre place là, comme on lit également à cette ouverture de l'épître aux Hébreux, il s'est assis à la droite, de plein droit. Dieu donc prépare un trône, il a préparé une place d'honneur. Et on peut appliquer au Seigneur ce qui a été dit jadis à l'égard d'un Mardoché, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi se plaît à avoir. Celui qui a été rejeté, celui qui a été méprisé, celui à qui l'homme n'a réservé comme trône qu'une croix, rejeté de la terre, au-dessus de la terre qui le rejette, au-dessous d'un ciel fermé à cause du péché dont il s'est chargé, cet homme rejeté, méprisé, crucifié, est maintenant en haut, au-dessus de l'étendue, couronné de gloire, assis à la droite de la terre. Réponse Dieu, ce que Dieu a fait, ce qu'il a préparé pour celui qui l'aime. Mais nous avons autre chose, c'est que mon Dieu nous a dit en Épître aux Hébreux, chapitre 1er, il a préparé pour lui un autre trône sur lequel le Seigneur va bientôt prendre place au jour de l'établissement de son royaume, selon ce que nous avons au début de l'Épître de l'Apocalypse, au chapitre 3, lorsque descendant du trône de son Père, il montera sur son trône le Fils de l'homme pour régner pendant le millénaire. Et quelle est la voie d'accès que Dieu le Père va préparer pour qu'il accède à ce trône? C'est ce que nous avons également dans ce chapitre 1er de l'Épître aux Hébreux. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds. Le marchepied pour accéder à son trône de Fils de l'homme sera constitué par les ennemis de Dieu. Ceux qui m'ont foulé de ses pieds dans ce jugement, ces jugements dont nous avons des descriptions terrifiantes, notamment dans l'Apocalypse, et qui trouveront leur réalisation en diverses phases, et foulant ses ennemis, Dieu se veut faire pour son Fils, de ses ennemis qui ont crucifié et rejeté son Fils bien-aimé, le Seigneur de gloire, il en constituera un marchepied par lequel le Seigneur accède à son propre trône. C'est encore là la réponse de Dieu. Nous avons encore autre chose quant à ce que Dieu, dans son conseil éternel, veut faire pour son Fils bien-aimé. Que veut-il faire des nations? Car Dieu l'avait dit déjà en création, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. Et ce propos se réalise dans sa glorieuse manifestation et sa glorieuse plénitude céleste et éternelle, dans l'épouse que le Seigneur s'est acquise, et dans l'épouse que bientôt il va se présenter à lui-même pour l'éternel droit de son cœur. Il veut faire des noces. L'une des paraboles du royaume des cieux, au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, commence par cette expression. Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. A été fait semblable. Nous remontons au conseil éternel de Dieu. Ce n'est pas quand le Seigneur est venu sur la terre que ce décret a été déterminé. C'est de toute éternité. Dieu avait en vue par ce royaume des cieux dont il avait donné la révélation et dont les caractères mystérieux cachés jusqu'alors ne seraient donnés à connaître qu'après la réjection dont il a été l'objet de la part de son peuple terrestre. Le Seigneur veut une noce, faire des noces pour son fils. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ses épouses. Les croyants de l'économie présente, de l'économie de la grâce, nous sommes constitués cette épouse. Le Seigneur s'est acquis lui-même son épouse par son œuvre. Et quel est le mobile d'une telle action? C'est l'amour. Christ a aimé l'assemblée, c'est le passé. Dans le passé de toute éternité, Christ a aimé l'assemblée. Au temps convenable, il est venu dans ce monde pour racheter le monde, pour posséder le trésor qu'il avait discerné en lui, et pour posséder la perle de très grand prix dont il avait vu la valeur et qui se trouvait dans les eaux profondes de la mer des peuples. Il connaissait la valeur de cette perle, il est venu, il a vendu tout ce qu'il avait, le Seigneur a donné tout ce qu'il avait, sa propre vie, pour posséder cette perle de très grand prix, son épouse, son assemblée, son mérite. Et Dieu veut faire des noces pour son Fils, car il l'avait dit en création, et cela est manifesté et réalisé parfaitement en rédemption, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Trois choses ont bien distinctes qui se rattachent à la pensée de Dieu et qui traduit les délices que Dieu Père trouve dans son Fils bien-aimé. Il l'élève à sa droite. Il l'a haut élevé. Il va faire un marchepied pour qu'il accède à son trône de Fils de l'homme. Et bientôt, le Seigneur viendra lui-même encore. Il n'enverra pas des anges. Il viendra lui-même pour chercher celle pour laquelle il s'est livré lui-même. Et pour se présenter, cette épouse bien-aimée, pour la joie éternelle d'un amour divin et saint. Nous pouvons lire également ce que Dieu maintenant a préparé à l'égard de sa créature. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. Au verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon. Et cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Et il avait été averti divinement par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'eût vu le Christ du Seigneur. Et il vint par l'Esprit dans le temple, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard, selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. » Siméon est l'un de ces rares éléments qui, au terme d'une économie, constituent un résidu. Il est compté au nombre de ces quelques-uns mentionnés à la fin du prophète Malachie, qui pensent au nom de l'Éternel et qui parlent l'un à l'autre, et qui constituent ce trésor particulier dont les noms sont inscrits dans un livre toujours ouvert et présent devant le regard de Dieu. Cette fin d'économie et ces jours qui précèdent la venue du Messie sont donc marqués par l'indifférence du peuple dans son ensemble et dont il a manifesté la réalité lorsque le Seigneur est né à Bethléem, et il est marqué aussi par l'existence d'un résidu pieux attaché à nos promesses divines et qui attend la délivrance. Avons-nous quelque chose de différent aujourd'hui? Le peuple dit christianisé de nos jours, qui se revendique de Christ et en endosse par cela toute la responsabilité, a-t-il une attitude différente que celle qui fut celle d'Israël dans son ensemble comme peuple à l'égard de la venue du Messie? S'il est une situation de froideur, d'indifférence, voire même de mépris, s'il est une telle condition, c'est bien celle de la chrétienté professante sans vie de nos jours. Mais au sein de celle-ci, il y a les éléments précieux au cœur du Seigneur, comme le démontrent les paraboles du royaume des cieux. Il y a ce qui a la vie, il y a ce qui appartient au Seigneur, il y a ces quelques-uns qui l'attendent. Et nous aussi, par la grâce de Dieu, nous attendons la délivrance, nous attendons la venue du Seigneur. Dieu veuille que nous soyons comptés et caractérisés par des dispositions qui étaient celles de cet homme, Siméon, qui était juste et pieux. C'était le cas également de Zacharie et d'Élisabeth, les parents de Jean le Baptiseur, et qui attendaient la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Notre Macron, il n'est pas dit que l'Esprit Saint était en lui. L'Esprit Saint n'a habité en aucun fidèle sous l'Ancienne Alliance. Mais l'Esprit Saint agissait en eux. L'Esprit Saint était une puissance divine qui a conduit, qui a éclairé, qui a rendu intelligent spirituellement de nombreux serviteurs de Dieu, de nombreux fidèles de son peuple terrestre, et des hommes déjà auparavant. Mais nous avons un privilège plus grand encore, nous avons le Saint-Esprit en nous-mêmes. Et la condescendance divine fait que nos pauvres corps, achetés par le Seigneur et par son œuvre, bien qu'ils ne soient pas encore rachetés, n'étant pas les objets de la rédemption de nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous-mêmes. Dieu veuille que cet hôte divin que nous abritons dans nos corps produit ces dispositions d'attachement, de justice pratique, de piété pratique, de saint commerce de nos âmes avec Dieu, attendant jour après jour la réalisation de la promesse que la grâce divine nous a laissée. Mais il est accordé à cet homme pieux d'être conduit par l'Esprit, c'est ce que nous avons au verset 27e, il vint par l'Esprit dans le temple au moment même où le Seigneur, petit enfant, est présenté. Il va le prendre dans ses bras et s'exprimer par des paroles qui traduisent un bonheur à nul autre semblable, lorsqu'il peut dire « maintenant » et non pas « alors ». Mais maintenant, il tenant dans ses bras le salut personnifié, car le salut c'est une personne, « maintenant, dit-il, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix. » Selon ta parole, c'est-à-dire selon tes promesses, maintenant j'ai dans les bras l'objet des promesses. Cette consolation et cette délivrance sont maintenant mon heureux partage. Maintenant, je peux m'en aller en paix. Il n'y a pas de paix avant cela, car pour tout homme ici-bas, il n'y a pas de paix, dit Dieu, pour le méchant, il n'y a pas de paix en dehors de Christ, lui seul a fait la paix dans le sang de sa croix. Il nous faut tenir, non pas dans nos mains, mais dans nos cœurs, dans nos affections, celui que nous avons reçu comme sauveur de nos âmes. Alors nous pourrons dire, maintenant, tu laisses aller ton esclave. Mes yeux ont vu ton salut. Un salut préparé. Voilà encore quelque chose, et c'est la première peut-être dans l'ordre des pensées générales, que Dieu a préparé pour l'homme. Qu'a-t-il préparé un salut? Un salut préparé. Dieu n'a pas été surpris par la chute de l'homme. Mais tout était de toute éternité préordonné, comme nous l'avons lu dans ce passage des Corinthiens, la sagesse préordonnée de Dieu, qui était ordonnée de toute éternité. Et le salut appartenait à ce plan divin. Un salut que Dieu a préparé. Nous pourrions citer de nombreuses références de l'Ancien Testament, bien qu'elles soient innombrables, mais qui confirment cette réalité d'un salut préparé. Il suffit d'assister au moment ou à la suite de la chute de l'homme, lorsqu'il est chassé du jardin de Nénis, et qu'il doit entendre la sentence consécutive à sa faute, gouvernement de Dieu inflexible. Il entendra aussi la paix, premièrement les promesses, et va être revêtu de vêtements de peau. Sitôt après la chute de l'homme, la première manifestation en grâce à l'égard de la créature déchue, c'est de jeter sur ses épaules coupables de sa créature un vêtement de peau. Et l'Éternel les revêtit, nous a dit. Car le vêtement et peut-être le salut de l'âme, c'est un vêtement que Dieu donne et que Dieu nous accorde en nous revêtissant, en nous revêtant lui-même. C'est lui qui nous revêt. Dieu fit des vêtements de peau et des promesses. N'est-ce pas un salut préparé? Il fallait une victime, il fallait que du sang coulât pour que nous ayons des vêtements de peau. Nous avons plus que des vêtements de peau. Et il nous semble bien que dans l'ordre des sacrifices, lorsqu'il nous est dit que la peau de l'Holocauste était pour l'adorateur, nous avons ce qui est notre parure maintenant devant Christ, devant Dieu, c'est Christ. Amener dehors la plus belle robe, pouvait-il être dit, à l'égard de l'enfant prodigue qui, jugeant son péché, confessant ses fautes, revient à son père. Que dit le père? Apporter dehors la plus belle robe. Il n'y a pas de parure plus excellente, plus parfaite, plus belle, qui puisse satisfaire les exigences du Père que celle que lui-même nous fournit. Il n'y en a pas d'autre. Et cette parure, c'est Christ. Il est la mesure de notre justice. Il est la mesure de notre acceptation devant Dieu. C'est Christ. C'est un des multiples types, mais qui brille déjà d'un éclat divin sitôt après la chute de l'homme, sitôt après que le péché y ait été commis. Mais si nous pensons à l'agneau pascal, d'Exode 12, quelle figure anticipée, éloquente et précieuse pour nos âmes, cet agneau dont le sang était mis sur les linteaux des portes et à l'endroit duquel Dieu peut dire « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous ». Ce n'est pas l'appréciation que nous avons du sang qui nous sauve. C'est l'appréciation que Dieu a du sang de son Fils bien-aimé, le seul agneau de Dieu, par qui le péché peut être effacé du monde, ôté du monde. Je verrai le sang, c'est Dieu qui le dit, et je passerai par-dessus vous. Quel salut préparé, mais il n'est pas encore manifesté. Mais tous ceux qui ont eu la foi en Dieu, qui ont cru Dieu, ont été justifiés, car on n'est jamais justifié autrement que par la foi. Il n'y a que la foi qui justifie. Et tous ceux qui ont cru Dieu, au nombre desquels il y a Abraham cité en Romains 4, il a cru Dieu et cela a été compté à justice, et par cela il donna gloire à Dieu, ne formant point de doute, étant tellement persuadé que ce que Dieu a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Il est justifié. Et tous les croyants avant l'œuvre de Christ sont sauvés par la foi, mais le sont par vertu de cette œuvre accomplie beaucoup plus tard. Et nous le sommes également par une œuvre maintenant accomplie. Mais c'était un salut préparé. Les éléments qui constituent le tabernacle, si nous les lisons quelque peu attentivement, placent devant nous le soin avec lequel l'Esprit de Dieu nous montre que ce salut était préparé. Qu'il s'agisse de l'argent qui nous parle de la parole de Dieu comme aussi de la rédemption. Qu'il s'agisse de la voie d'accès pour entrer jusque dans le sanctuaire, qu'il s'agisse des sacrifices, toutes ces choses nous parlent d'un salut préparé. Le serpent d'airain, vers lequel l'Israélite mordu par les serpents devait porter son regard pour ne pas en subir de dommages, est une figure également bien précise, puisque même l'apôtre Jean en parle au chapitre 3 de son évangile. Comme le serpent fut élevé dans le désert, ainsi aussi, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Un salut préparé. Ésaïe 53, par exemple, ce cœur de l'Écriture, au milieu de la parole de Dieu, cet évangile de l'Ancien Testament, nous parle d'une manière touchante, qui n'a pas été saisie à la lecture d'Ésaïe 53, qui nous entretient de ce salut préparé. Les prophètes ont parlé de celui qui viendrait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devraient être sa part et des gloires qui suivraient. C'est encore l'évocation par la voix des prophètes d'un salut préparé. Mais il y a encore autre chose que Dieu a préparé. Nous prenons intentionnellement des passages d'Ancien Testament pour souligner cette préparation de toute éternité. Si nous lisons dans le livre de l'Exode au chapitre 23, au verset 20 du chapitre 23 de l'Exode. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener au lieu que j'ai préparé. Prends garde à toi à cause de sa présence et écoute sa voix, ne l'irrite pas, car il ne pardonnera point votre transgression, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange ira devant toi et t'amènera un lieu préparé. Si sauvé est le propre divin à l'égard de son peuple, il veut l'amener dans un lieu, et dans un lieu de bénédiction, un lieu qui est digne de l'amour de Dieu à l'égard de sa créature. Il a préparé un peuple, il a préparé un lieu pour ce peuple. Nous sommes peu de jours après que la loi soit donnée. Dieu connaît son peuple. Il, d'une manière inconsciente, s'est engagé par trois fois en disant tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Dieu va-t-il laisser ce peuple à lui-même, l'abandonner à ses ressources? Il ne le fera pas. Il va lui donner un conducteur. Et combien il est beau de constater ces ressources de la miséricorde de Dieu, qui, connaissant son peuple, incapable de marcher, qui ne pourra que errer et s'égarer dans le désert, va lui donner un conducteur. J'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'amener jusqu'au lieu que j'ai préparé pour toi. Combien cela est bon. Nous sommes pourtant sous la loi, mais de telles déclarations viennent sceller cette miséricorde et cette bonté de Dieu. Il y avait un conducteur, un ange était là également avec un majuscule, lorsque le peuple a été délivré de l'Égypte. Il y a maintenant un ange pour le conduire dans le désert. Il y aura de nouveau, troisième fois, un ange lorsqu'il faudra combattre pour entrer dans la jouissance de l'héritage, dans la possession et la jouissance de l'héritage. C'est le Dieu saint. Celui qui peut dire, je suis venu maintenant pour conduire tes combats. Maintenant. Il ne peut pas venir avant. C'est maintenant qu'il va falloir prendre possession de l'État. Il y a le secours divin. Secours divin nécessaire, mais assuré pour être conduit dans le chemin, pour être gardé de tous les écueils et de tous les assauts d'ennemis. Et ainsi nous arriverons au lieu préparé. Mais prends garde, toi, à cause de sa présence, car mon nom est en lui. Nous avons pour nous-mêmes plus qu'un ange. Nous avons celui qui est notre guide et celui qui est notre modèle, celui qui a cheminé avant nous sur la terre et dans l'empreinte des pas duquel nous avons à poursuivre notre route. Un modèle qui est une mesure pour la foi, celui vers lequel nos regards se portent. Et avec l'Épître aux Hébreux, nous pouvons bien dire, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Voilà la mesure, voilà le modèle. Nous sommes appelés à marcher comme lui a marché, à aimer comme lui a aimé, à être saint comme lui est saint, c'est la mesure. C'est la mesure du modèle. Nous avons celui qui a marché avant nous, qui nous a montré le chemin, et qui nous dit à chacun de nous, encore aujourd'hui, comme à Pierre jadis, toi suis-moi. Mais ne l'hérite pas. Mon nom est en lui. Il est Dieu lui-même, celui qui ne donne pas sa gloire à l'autre. Mais il va nous conduire. C'est le conducteur, le divin conducteur dans le chemin jusqu'au jour de l'entrée dans la jouissance de l'héritage, ici terrestre, pour nous célestes. Il prépare un lieu. Nous avons donc des ressources. Nous avons un conducteur, nous avons des promesses, mais nous avons aussi des exhortations et des avertissements. prends garde à toi à cause de sa présence. Pour nous, qu'a dit le Seigneur en s'adressant à ses disciples? Je vais vous préparer une place. Le Seigneur, avant de laisser les siens s'acheminant vers la croix, où il allait payer le prix de la place, peut dire aux siens, je m'en vais, vous préparez une place. La place est acquise, la place est préparée. Tout à l'heure, à la venue du Seigneur, nous allons l'occuper. Mais la place est acquise. Ce n'est pas un lieu terrestre, ce qu'était le partage d'Israël. Ce n'est pas un lieu dans lequel il ne devait, où il y avait encore des combats à livrer, mais nous avons une place qui est acquise. Le Seigneur en a signé la quittance par le sang de sa croix. Je m'en vais vous préparer une place. Et il peut nous dire, après que lui, dans 3 chapitres consécutifs, ait connu le trouble et le frémissement de son âme, il peut nous dire que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif. Je m'en vais vous préparer une place. Bientôt, nous allons l'occuper, nous occuperons la place acquise. Préparer un lieu, préparer une place, telle est l'activité de l'amour divin à l'égard de ceux qu'il s'est acquis par son œuvre. Dans le chapitre 16 du Deutéronome, sur lequel nous n'avons pas le temps de nous arrêter, mais dans le chapitre 16 du Deutéronome, nous voyons dans quelle mesure l'attention du peuple est attirée pour que ce peuple recherche le lieu que l'Éternel a choisi pour y faire habiter son nom. C'était un lieu choisi par l'Éternel, un lieu préparé par Dieu lui-même. Ce n'est pas laissé à l'initiative du peuple. Mais pour chacune de ces 3 fêtes mentionnées en Deutéronome 16, le peuple doit chercher le lieu préparé et le lieu choisi par Dieu pour qu'elle puisse être célébrée. Qu'il s'agisse de la fête de la Pâque, qui nous parle du passé, qu'il s'agisse de la fête de la Pentecôte, qui nous parle du présent, qu'il s'agisse de la fête des tabernacles, qui nous parle du futur, elles étaient célébrées toutes 3 dans un lieu que le Seigneur, que l'Éternel avait préparé et qu'il avait choisi. Ceci est du ressort de Dieu, pour, par la grâce de Dieu, nous connaissons aussi ce lieu de sa présence, dans lequel il nous convie, c'est un lieu que sa grâce a préparé pour nous. Et nous avons le privilège de porter nos pas, non pas seulement 3 fois l'an, mais à ces 5 convocations que son amour propose à nos cœurs pour nous trouver autour de celui qui nous a promis d'être au milieu des 2 ou 3 rassemblés à son nom. Il a payé le prix de ce lieu. Le prix de la chambre haute, c'est lui qui l'a quitté. Et c'est là que, par la grâce divine, nous réalisons toutes les bénédictions qui dépassent de loin celles des 3 fêtes célébrées 3 fois l'an, mais que nous pouvons recueillir dans la présence du Seigneur, dans le lieu où il nous convie, dans ce lieu qu'il a préparé et acquis par son œuvre. Une autre chose que Dieu avait préparée pour son peuple, c'est au chapitre 15. De l'Exode, et qui constitue un thème du cantique de la délivrance, c'est l'habitation. En disant seulement le court passage en Exode 15, Exode chapitre 15 au verset 2, Jah est ma force et mon cantique, il a été mon salut, il est mon Dieu, et je lui préparerai une habitation. Au verset 17, tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, ô Éternel, le sanctuaire au Seigneur que tes mains ont établi. Le peuple vient de passer la mer Rouge. Il est délivré de la puissance oppressante de l'ennemi, le Pharaon. Il pose son pied sur le rivage de la délivrance. Que fait-il? Il chante. Il chante la louange et la gloire de la délivrance et du libérateur. C'est la première fois que nous trouvons dans la parole des âmes qui chantent, des hommes qui chantent, un peuple qui chante. Car en effet, le chant ne peut être que le résultat de nouvelle naissance, de la délivrance, de la conversion. Dans la pensée de Dieu, il n'y a que les croyants qui chantent. Même les anges, il n'est pas dit qu'ils chantent, ils disent. Dans l'Apocalypse, il n'est jamais dit qu'ils ont le chant. C'est le partage des rachetés du Seigneur, de faire entendre leur voix, mieux que ne le faisaient les chantres dans l'Ancien Testament, mais pour exprimer en commun ou individuellement, mais s'il s'agit d'un peuple, la gloire et la louange qui revient au libérateur. Le peuple chante. Mais dans le cours de ce magnifique cantique, nous avons la mention de l'habitation, qui fait l'objet de deux désirs. Le désir du peuple de Dieu et le désir de Dieu lui-même. Pensons un peu à cette grâce immense que Dieu accorde à des hommes d'habiter avec son peuple sur la terre déjà. Dieu duquel il nous a dit qu'il habite la lumière inaccessible, que nul œil n'a vu ni ne peut voir. Celui qui remplit les cieux, dans sa grâce, il veut habiter avec sa créature. Et d'autre part, l'homme à l'égard duquel il est dit au psaume 116, sauf erreur, qu'il a fait la terre pour les hommes, il veut les faire habiter dans le ciel. Est-ce que ce sont des choses qui pouvaient monter au cœur de l'homme? C'est ce qu'il avait préparé pour ceux qui l'aiment. Il veut habiter avec l'homme et il veut que l'homme habite avec lui. Il veut venir sur la terre habiter avec l'homme, il veut introduire l'homme dans le ciel pour qu'il habite avec lui. On pourrait bien y adjoindre cette exclamation de Romains 11, aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, et lui donner gloire éternellement. Une habitation préparée, un lieu, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, le sanctuaire au Seigneur que tes mains ont établi. C'est en effet ce que Dieu va faire sitôt après la rédemption. Ceci n'a jamais été réalisé avant. On n'a jamais vu Dieu habiter avec l'homme avant le passage de la mer Rouge qui représente la rédemption. Mais il donne sitôt après les instructions pour la réalisation de cette demeure. Figure qui nous montre encore et nous confirme ce que Dieu a préparé, un salut, un lieu pour rencontrer son peuple, une habitation pour demeurer avec lui. Car c'est en effet pour habiter au milieu de son peuple qu'il l'a mis à part. Et par la grâce de Dieu, nous sommes nous-mêmes constitués cette habitation de Dieu par l'Esprit, dit l'apôtre aux Éphésiens. Ceci ne peut que nous conduire à nous prosterner dans l'adoration. Des pensées qui sont au-dessus de nos pensées, qu'aucune imagination de l'homme ne pouvait concevoir. Habiter avec Dieu, Dieu habitant avec nous. Mais nous devons mettre un terme. Et nous citons simplement en Romains 9 le fait que si le Seigneur a acquis la place, qu'il l'a préparé, qu'il a préparé le salut, la demeure, que fait-il encore? Il nous prépare pour la place. Il nous prépare pour la place. C'est ce que nous lisons au chapitre 9 des Romains. Au verset 20, « Toi, homme, viens-tu qui conteste contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu ainsi fait? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour faire de la main la même masse, un vase à honneur et un autre à déshonneur? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout préparés pour la destruction, et afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire, lesquels aussi il a fait savoir nous, non seulement entre les Juifs, mais aussi entre les nations. » Dans l'Épître aux Corinthiens, nous avons lu cette expression, « La sagesse préordonnée de Dieu » pour notre gloire. Et si nous avons encore cette expression, qu'il a fait de nous, comme croyons, des vases de miséricorde qu'il a préparé d'avance pour la gloire. Rien moins que cela. Nous sommes destinés à la gloire. Tu nous destines à la gloire, chantons. Des vases de miséricorde. C'est un beau sujet que celui des vases. Mais nous avons aussi autre chose mentionnée dans ce passage, et qui évoque des versets de la parole, qui nous montre que Dieu a aussi préparé le jugement. Il a préparé le jugement dans le psaume 9e, sauf erreur, comme aussi dans les Proverbes au chapitre 9, il nous a dit que son trône est préparé pour le jugement. Et qu'il a préparé le jugement pour les moqueurs. Ceci veut-il dire qu'il a destiné des hommes au jugement et à la perdition? Pas du tout. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Mais ceux qui le rejettent, ils connaîtront le jugement. Le trône est préparé. Il a préparé son trône de jugement pour les moqueurs. Mais il ne destine pas les hommes au jugement. C'est la raison pour laquelle nous avons une distinction qui mérite d'être soulignée dans ce passage. Quand il est parlé de ceux qui sont jugés, il nous est dit de ces vases de colère au verset 22e, des vases de colère tout préparés pour la destruction. Il n'est pas dit qu'il a préparé pour la destruction. Ils se sont préparés eux-mêmes. Par leur incrédulité, ils se sont destinés, ils se sont préparés au jugement. Mais ce n'est pas Dieu qui les a préparés. Mais lorsqu'il s'agit des vases de miséricorde, des vases de sa grâce, alors il est bien précisé qu'il a préparé d'avance pour la gloire, comme la parole est précise. Et nous pouvons retrouver la même pensée lorsqu'il est parlé de ce que Dieu a préparé pour l'homme de tous les temps, pour les croyants de tous les temps. Il a préparé quelques lieux de bénédiction. Pour les saints dans l'Ancien Testament, en Hébreu 11, il a préparé une cité. S'il s'agit des croyants de l'économie présente, nous l'avons vu, il a préparé une place. S'il s'agit de son peuple terrestre, ou plutôt des saints qui seront introduits dans les bénédictions millénaires, en Matthieu 25, il a préparé un royaume. Et même pour le résidu souffrant de la période de la grande tribulation, il l'amène au désert où il a préparé un lieu où il va la nourrir 1260 jours. Ce résidu, il va le nourrir étant dans sa tente protectrice sur lui. Mais pour les incrédules, qu'a-t-il préparé? Rien du tout. Et dans ce jugement séparatif de Matthieu 25, il a dit « Allez-vous-en maudit, loin de moi, dans le lieu préparé pour vous, pas du tout, dans le lieu préparé pour Satan et ses anges. » Ils se sont préparés eux-mêmes par la rébellion et par l'incrédulité, et ils seront envoyés dans le lieu préparé pour Satan et non pas pour eux. Ils seront dans l'éternelle compagnie de celui qu'ils ont choisi, du conducteur qu'ils ont suivi. Mais les vases de miséricorde, ils sont préparés pour la gloire. Quelle grâce de savoir que nous sommes comptés au nombre de ces vases de terre, mais qui contiennent ce trésor et qui sont préparés, destinés à la gloire. Nous pourrions nous étendre sur d'autres choses que le Seigneur a préparées, les bonnes œuvres préparées en avant, afin que nous marchions dans elles, mais que le Seigneur nous accorde d'apprécier, de mesurer quelque peu ce que sa bonté dans son conseil éternel a conçu pour sa créature. Mais sans oublier qu'avant toute chose, il a préparé l'honneur le plus élevé pour l'auteur de notre salut. Nous sommes les bénéficiaires de ce conseil éternel dont le Seigneur a été le seul artisan. Mais il nous accorde d'avoir des cœurs attachés à lui, et de marcher dans le chemin qu'il nous a passé, à la suite de son conducteur. Bientôt nous allons franchir le seuil, il va nous introduire dans le lieu qu'il a préparé, et pour jouir d'une manière parfaite, sans entrave, de cette gloire que nous allons bientôt contempler, sa gloire personnelle, cette gloire que nous allons bientôt partager, sa gloire de Fils de l'homme. Et tout cela, nous en goûterons toute la valeur éternellement, et cela par des accents sans fin d'un chant de camp, d'un chant de du chant du cantique nouveau, lorsque nous serons introduits dans la place qu'il a préparée pour nous.